ça fait bientôt un an que le Covid a bouleversé notre quotidien, bouleversé nos pratiques et nos habitudes. Un an que certains secteurs de notre société vivent difficilement. Il y a les restaurants, les bars, mais aussi la culture. Cinéma, théâtre, musée, concerts font partie de nos souvenirs lointains où l'on pouvait encore marcher dans la rue sans masque. Mais alors, que font les artistes, les acteurs du monde culturel? Comment survivent-ils alors que leur secteur est quasiment à l'arrêt depuis un an? Je suis allée rencontrer plusieurs d'entre eux à Orléans pour leur poser la question. Le 7 février, on soufflait de tristes bougies. Voilà 100 jours que les cinémas ont fermé leurs portes, du jamais vu, même pendant la Seconde Guerre mondiale. À Orléans, il y a un cinéma que l'on connaît bien, celui des Carmes. Il est tenu par Michel et Myriam et ses 7 salariés. Et alors que j'arrive devant, les portes sont en fait ouvertes au public.
On fait une permanence tous les jeudis et tous les samedis de 11h à 16h. Permanence où vous pouvez, enfin tous les gens qui veulent peuvent venir nous faire juste un petit coucou et acheter des DVD ou nous formuler leur soutien en rechargeant leur carte, en achetant une carte d'abonnement. Moi je suis Valérie, je travaille au cinéma Les Carmes depuis l'ouverture avec Xavier, donc on est là depuis 21 ans et demi. Et je suis adjointe de direction, associée, surtout polyvalente, on fait un peu de tout. Tout le monde s'entraide, on est une petite équipe, donc tout le monde fait un peu de tout.
Vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites là ?
Là, on est en train de retailler une affiche pour pouvoir la mettre à l'extérieur dans les caissons. C'est des affiches qui ont été confectionnées par Myriam. Et c'est un message destiné en fait à tous les spectateurs qui passent et qui déjà nous formulent leur soutien. C'est pour leur dire que nous aussi, on a hâte de les retrouver et qu'ils nous manquent. Vous allez voir, elle est en deux parties. C'est un gros cri du cœur, que vous nous manquez. Voilà, que vous nous manquez, que le cinéma nous manque. Et c'est, tout simplement.
Comment vous vivez un peu cette situation ?
C'est pas facile, c'est-à-dire que c'est la deuxième fois qu'on est arrêté. Là, c'est beaucoup plus long que le premier confinement. C'est pas évident parce que surtout que autant là dans le premier confinement on avait comme une perspective de réouverture, là on en a aucune et en plus on comprend pas pourquoi on est fermé.
Hop là, ça a bougé.
Ouais, ça va faire comme du scotch à la vie.
Ah, peut-être pas du coup.
Pète trop sur les bords, et ça tient pas.
Xavier, qui aide Valérie à accrocher les affiches devant le cinéma, lui, il est technicien. Je rentre avec lui dans le cinéma où, surprise, un film est en train de tourner. À vrai dire, chaque salle est en train d'en projeter un, alors que la salle est vide.
On est dans la salle ?
3.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui ?
Actuellement, là, je fais tourner les machines. C'est-à-dire que j'ai lancé dans toutes les salles une séance pour faire tourner les projecteurs et les serveurs. Je fais également tourner toutes les clims pour l'entretien des machines. Parce qu'on ne sait pas quand on va ouvrir. Ça fait déjà plus de 3 mois qu'on est fermé. Donc, ça a besoin de tourner pour éviter que l'humidité se mette dans les machines. Pour que les clims fonctionnent, ça entretient également les clims. Je fais ça une ou deux fois par semaine. En général, le lundi et le jeudi, je fais tourner mes machines je fais tourner un film pendant 2 heures. Voilà, c'est un entretien qui est conseillé par notre fournisseur des projecteurs.
Mais la salle est vide. Qu'est-ce que ça fait de faire tourner un film la salle vide ?
C'est triste. C'est très très triste. Oui, on a vraiment envie de revoir des spectateurs. Le plus dur, c'est de pas savoir quand ils vont revenir. C'est ça qui est très 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 difficile à accepter. Mais bon, on espère le printemps avec les beaux jours qui vont revenir. Voilà, on est impatients, mais c'est pas facile.
Quels films vous faites tourner ? C'est des films que vous avez reçus ? Non, vous ne recevez plus de films aujourd'hui ?
Non, on ne reçoit plus de films. C'est des films qu'on avait lorsqu'on a fermé le fin octobre. Ce sont les films qui passaient à ce moment-là. Donc, je tourne. Je ne fais pas toujours tourner les mêmes films. Comme ça me permet de varier un petit peu. Des films avec des sous-titres également. C'est important de mettre... parce que c'est un fonctionnement un peu différent avec des sous-titres. Donc, je change. Des fois, c'est des films d'animation. Voilà, je varie. Enfin, j'essaye de varier le plus possible.
Ça vous arrive de les regarder, de vous poser dans la salle et de les regarder ?
Non, plus maintenant, parce que c'est des films que j'ai déjà vu auparavant. Donc au bout d'un moment, non, je traverse la salle, je vois si tout fonctionne, le son, les sous-titres, la colorimétrie, voilà. Donc je ne reste plus. On n'a pas reçu de nouveaux films depuis fin octobre. Donc là, non, je ne vais plus en salle. Enfin, je ne regarde plus les films, dis-moi.
Comment ça se passe pour les films qui étaient prévus ? Il y avait des sorties qui étaient prévues récemment. Comment ça se passe pour ces films-là ?
Alors, lorsqu'on a fermé, certains films étaient sortis depuis seulement 2 jours. Donc, normalement, à l'ouverture, on va repartir avec tous ces films-là. Par exemple, ADN, il y avait également un film qui était sorti depuis seulement une quinzaine de jours, c'était Adieu les cons de Dupontel. Donc, à la réouverture, on va partir avec ces films-là. Entre-temps, entre le 28 octobre et aujourd'hui, il y avait des films qui sortaient, qui étaient prévus de sortir, mais ces sorties-là sont décalées. Alors certains sont décalés au printemps ou carrément à l'automne prochain. Donc là, c'est très très flou parce qu'on n'a pas de date de réouverture. Donc là, les distributeurs sont bloqués totalement. Il n'y a pas vraiment de planning de sortie pour le moment.
Et du coup là, aujourd'hui vous avez choisi de diffuser quoi ?
Alors ici c'est Dark Darkman, c'est un film qui se passe en Sibérie je crois, ou en Mongolie. Et là c'était Last Word, un film américain. Donc là c'est un film en sous-titre, sous-titré. Donc là, un film policier.
À l'étage au-dessus, Michel Ferry-Picard et Myriam Djebbour sont dans leur bureau. Ils sont les deux gérants du cinéma des Carmes.
On a l'impression d'être encore confinés, c'est vous dire. Psychologiquement, c'est un peu curieux. On vit un peu enfermé dans un truc très bizarre, sans perspective, sans projet. On n'ose pas trop se plaindre parce qu'on se dit qu'on n'est pas à plaindre. Mais en même temps, c'est un peu rude quoi, de ne pas savoir quand on va commencer à pouvoir se projeter à nouveau. Après, bah, c'est comme ça. J'ai l'impression, moi, depuis 2-3 mois, de répéter toujours les mêmes trucs, de dire qu'on devrait être ouvert parce que les hypermarchés, parce que les centres commerciaux de plus de 2000 machins, mètres carrés, mètres cubes, étaient ouverts jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est juste un espèce de renoncement assez hallucinant à observer. Voilà, c'est très étrange. Et je crois que même, enfin, là, maintenant, on est en couvre-feu, donc c'est une espèce d'objet bizarre où... La vie s'arrête à partir de 17h55. Et du coup, je pense que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal aux gens de ne pas pouvoir aller au cinéma, au théâtre, et surtout aussi en musée, parce que là, pour le coup, je ne vois pas trop ce qu'on risque quand on va dans un musée, avec des jauges. Et voilà. Nous, on le vit très mal, mais je pense que les gens le vivent aussi très mal, quoi. Enfin, parce qu'on est des êtres de sociabilité, quoi. Parce qu'on aime bien se voir, se rencontrer, parce qu'on a tous... pouvoir reprendre une vie. Enfin, j'ai jamais vécu un hiver aussi long, en fait.
Qu'est-ce que vous faites en attendant ?
Alors, on essaye avec quand même une certaine difficulté de se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire d'envisager la réouverture. En même temps, c'est très compliqué parce qu'on dépend d'un calendrier de sortie des films que nous ne maîtrisons pas. Il y a à peu près, depuis qu'on a fermé, 150 films qui devraient être sur le marché, si je puis dire. On maintient l'outil en marche, en état. Il faut savoir que tout ce qu'on a est fait, en fait, pour tourner en permanence. C'est très mauvais ce qu'on lui impose. Et puis surtout, on essaye de maintenir un lien avec les spectateurs, les cinéphiles, à travers l'ouverture du cinéma 2 fois par semaine, de 11h à 16h. Le jeudi et le samedi, où on vend des DVD et des cafés, des boissons. On essaie d'imaginer ce que sera le cinéma et la vie de l'après-Covid.
Mais en attendant, dans cette vie avec l'épidémie, les cinémas sont à l'arrêt. Et pendant ce temps-là, ce sont les plateformes de streaming qui s'envolent. Avant le confinement, 30% des Français regardaient au moins une fois une vidéo à la demande chaque année. Mais depuis, le chiffre atteint presque 90%. Alors j'ai posé la question à Myriam, a-t-elle peur de ces plateformes ?
Non, ça ne me fait pas peur. Parce que je pense que même chez les jeunes, à un moment, ils vont évidemment... Enfin, il y a ce désir de retourner en salle de cinéma, quoi. Je pense que la sortie entre copains, avec ou avec son amoureux ou son amoureuse, c'est si on veut voir un film, ça se fait pas dans le salon des parents, mais plutôt en salle de cinéma. C'est quand même le geste de sortir. Donc après, en termes d'habitude, c'est ça. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses pour moi qui sont totalement incontournables dans l'existence, et notamment d'être en lien avec les autres. Là, pour le coup, c'est très entravé partout par la crise sanitaire, mais tout le monde a hâte de retourner au restaurant. Tout le monde a hâte de retourner dans des cafés, dans des bars, au cinéma. Je pense que, par exemple, les restaurants ont mis en place tout les click and collect, là, les trucs. Mais je trouve ça à la fois génial, mais en même temps, si on va au resto, c'est parce qu'on a envie de voir d'autres personnes, c'est parce qu'on a aussi envie d'être servi, parce qu'on a envie de rien faire, parce qu'on a envie de se consacrer à un truc que quelqu'un aura préparé de façon particulière.
Ça va bientôt faire un an que le premier confinement a débuté. Vous avez réouvert pendant l'été. Comment vous avez vécu cette petite pause, ce petit moment de liberté, on va dire, sur toute cette année ?
C'est intéressant parce que c'est finalement considéré, à juste titre, qu'on est un peu prisonnier. On était prisonnier du 17 mars au 22 juin, ou du 14 mars au 22 juin, et du 29 ou 17 octobre jusqu'à on ne sait quand. C'était formidable de retrouver. Alors d'abord, on était inquiets, on voulait rassurer les spectateurs, remettre en route tout, avoir les protocoles adaptés pour que tout le monde soit protégé. Et à notre connaissance, il n'y a eu aucun, et le Premier ministre même l'a reconnu, aucun cluster dans aucun cinéma de ce pays. Bref, donc on a dû faire le taf. Et donc c'était formidable de revoir tout ça, de voir au mois d'octobre que tout redevenait comme avant, et au moment où c'est redevenu comme avant, eh ben on a refermé. Et avec ce truc qui relève d'une sorte de mépris vertigineux de la part des gens qui nous gouvernent, c'est-à-dire qu'ils nous, jusqu'au début décembre, ils nous disent « Non, mais vous allez rouvrir le 15 décembre ». Puis on n'est pas totalement idiot, donc on sait lire les chiffres. On sait qu'on nous a parlé de 5000 cas et qu'on est à 16000 cas. On est à 16000 cas le 1er décembre, on est à 16000 cas le 2, etc., etc. Et je ne sais pas, 10 jours, le 5 décembre ou le 4 décembre, je me dis « Ah ben, vous n'allez pas rouvrir ». Il y a des distributeurs qui ont engagé des millions d'euros pour sortir des films. Et je trouve cet élan coupé sur cette réouverture, c'était un choc terrible. Donc ce bref moment de liberté, entre le 22 juin et je ne sais plus quel jour d'octobre, c'était bien agréable.
Financièrement, comment ça se passe pour vous ?
Le premier confinement est passé un peu comme si ça s'était pas arrivé, c'est-à-dire que les mécanismes d'aide proposés n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'on vivait. Donc ce qui s'est passé, c'est que pour pas mal d'entreprises, la première période de confinement a juste servi à gratter nos économies, à manger notre trésorerie. Nous, à Orléans, on est locataire de la mairie, donc la mairie nous a exonéré de loyer. Donc ça, c'était juste génial. C'est encore le cas et c'est vrai que ça baisse pas mal des charges du cinéma. Enfin, parce qu'il y a des charges qui continuent à courir, de ce que disait Michel. Il y a des charges électriques, on démarre les projecteurs. Il y a encore pas mal de choses qui tournent et qui sont assez conséquentes, donc qui font qu'on n'est pas à zéro charge sur le fonctionnement de la salle. Maintenant, c'est jusqu'où on va tenir. Si vous voulez, en fait, on gérait l'écart de façon un peu au cordeau, quoi. C'est-à-dire qu'on faisait très attention à tout un tas de paramètres qui font qu'on souhaitait que cette entreprise soit en bonne santé. Et elle l'est encore, en fait. On n'est pas en situation de difficulté financière sur le cinéma Les Carnes. Et ça, c'est important de le dire. Maintenant, ce qui nous agace un peu, même beaucoup, c'est de se dire qu'en fait, on a fait tout ça pour se faire bouffer notre trésorerie sur un premier confinement dont on n'est pas responsable. Contrairement à ce que pensent souvent les gens, on n'est pas hyper subventionné, quoi. Voilà, on ne vit pas sur des ventes de pop-corn vertigineuses et on ne vit pas sur la diffusion de films qui font 10 millions d'entrées ou 5 millions d'entrées par an sur leur sortie. Quoi, voilà. Donc on a la fragilité de toutes les salles indépendantes à RSC. Si vous voulez, ce n'est pas normal qu'on soit dans cette situation-là. Donc on ne demande pas à ce que les mécanismes d'aide nous enrichissent, mais on demande juste à ce que les mécanismes d'aide ne nous fassent pas taper dans nos réserves de trésorerie. Parce que cet argent-là, on l'a gagné. On a travaillé, toute l'équipe du cinéma a travaillé. Et dans cette idée-là, cet argent-là, elle sert à réinvestir dans la salle de cinéma, elle sert à payer les salaires, elle doit servir à ça. Elle ne doit pas servir à gérer des périodes de fermeture parce que dont on n'est pas responsable, et puis parce que accessoirement la crise épidémique est gérée de façon particulière, voilà.
Comment vous le vivez, cette deuxième fermeture ?
Pour un lieu de culture, fermé, c'est quand même symboliquement énorme, en fait. C'est-à-dire qu'on aurait pu rester ouvert, mais rester ouvert peut-être en demi-journée. Nous, au 15 décembre, on s'est dit, même si on doit fermer à 16 ou 18, c'est pas grave, on aura le jeune public scolaire. On se bat tous dans les théâtres et les cinémas pour au moins pouvoir accueillir les publics scolaires. Parce qu'on est sur des séances privées, parce que il faut juste les déplacer d'un lieu à l'autre, mais au moins on est sur un maintien de notre activité, on fait tourner les projecteurs et on fait bosser l'équipe aussi, qui n'en peut plus de ne pas travailler, en fait. Il y a encore 2 semaines, je plaidais pour un confinement, parce qu'il y a un moment, il faut en finir. Alors, un confinement, mais après, quand on rouvre en ayant des protocoles stricts, afin d'éradiquer le virus dès qu'il réapparaît, comme ça peut se faire dans d'autres pays, quoi. C'est pas possible. On va pas rester dans ce truc de demi-mesure à se dire, encore une fois, à 18h, on rentre chez nous, on voit personne et on attend, quoi. On attend quoi ? En fait, ça baisse pas, quoi. On est en train d'attendre une nouvelle vague. Nous, pendant ce temps-là, on a passé des mois à fermer, quoi. Enfin, et quoi encore ? Enfin, on va pas passer une année à fermer nos lieux, à allumer pour alimenter des projecteurs. C'est quand même ahurissant comme truc à vivre, quoi. Et du coup, oui, ça crée vachement de colère, d'incompréhension, d'injustice, de tout ce que vous voulez, quoi. Mais c'est juste hallucinant. Et pendant ce temps-là, je sais pas, au mois de décembre, c'était la fête à Neuneu, chez, effectivement, ce que j'ai dit, chez H&M, et pas que H&M, chez tous les... chez la Fnac, c'était blindé, quoi. Le Black Friday, là, c'était juste hallucinant, les images. Et comment on veut nous faire croire que nous, dans nos salles, ce soit le même bordel ? Mais pas du tout, en plus. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on est tout à fait en capacité de faire la queue aux gens avec 1 mètre d'écart, de les accueillir dans des salles avec des jauges à respecter. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que c'est totalement dingue ce qu'on vit en ce moment. C'est dingue, quoi. Voilà, c'est fou.
Ici, on parle d'un cinéma, d'une structure qui diffuse des œuvres, donc les productions des artistes. Et pour eux, la situation est différente. La plupart sont intermittents du spectacle, un statut un peu spécial et très précaire. Ils sont 270 000 en France. Ils fonctionnent au contrat de travail, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Pour survivre, les intermittents du spectacle ont droit au régime d'indemnisation chômage. Alors pour mieux comprendre leur situation, j'ai rencontré le responsable de la SNAM-CGT à Orléans. La SNAM, c'est l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens de France.
Alors, je m'appelle Vincent Lemaire, je suis batteur, percussionniste.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe actuellement pour les intermittents du spectacle ?
On a réussi à obtenir ce qu'on appelle une année blanche, qui est en fait, suivant les cas, entre 6 mois ou 18 mois de prolongation de l'assurance chômage. Et au niveau des aides, il y a beaucoup d'argent qui est versé, qui passe par pas mal de structures, mais qui malheureusement profite surtout aux grosses entreprises, aux grosses structures, et pas aux petites compagnies, et pas aux intermittents, artistes et techniciens qui ne sont pas structurés dans des grosses entreprises, quoi. Donc y a beaucoup de gens qui... Il y en a qui déménagent, hein, qui ne peuvent plus payer leur loyer ou leur maison. Il y en a, ça divise leur salaire par deux quand même, quoi, du jour au lendemain, quoi. La culture, c'est comme pour les autres pans de l'économie. On donne aux grosses entreprises et on espère que ça va ruisseler jusqu'en bas. Et en fait, jusqu'en bas, il ne se passe rien, ça ne ruisselle pas du tout, quoi. Comme on n'a plus de travail salarié, on n'a plus de cotisations qui rentrent, de cotisations sociales aussi, des salaires. Ça, c'est valable aussi pour tous les gens qui travaillent en activité partielle. Ça génère pas de cotisation sociale, ce qui fait que les caisses de cotisation sociale vont être en faillite. Personnellement, en tant qu'intermittent du spectacle, vu que j'ai pas eu de travail salarié, presque pas, depuis un an, si je tombe malade du Covid demain, j'ai pas le droit à congé maladie. Une femme intermittente aujourd'hui qui tombe enceinte, elle a de grandes chances de pas avoir assez d'heures pour ouvrir des droits au congé maternité. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a rapportées au niveau de l'État, qu'on a conscience, qui va faire quelque chose. Ça fait des mois qu'on lui dit, mais il y a déjà des gens qui sont dans des problématiques qui ne sont pas réglées, quoi. Voilà où on en est.
Et au niveau du moral, est-ce que vous, personnellement, déjà, et peut-être les gens autour de vous, de votre syndicat, comment vous vous sentez ?
Au niveau du moral, c'est assez particulier quand même. Quand je discute avec les musiciens et musiciennes que je connais, tout le monde commence un peu à être déprimé. Ça commence à faire un peu long, un an d'arrêt. Il y a beaucoup d'incertitudes. Non, c'est difficile au niveau du moral, c'est difficile, quoi. Moi, c'est différent. C'est difficile pour moi aussi, mais à partir du moment où on commence à s'investir dans des actions, des luttes, ça occupe l'esprit aussi. Donc ça va mieux. On est en réaction et on se bat pour obtenir quelque chose, quoi. Mais non, c'est dur. Ça fait un an et on n'est pas prêt de voir. Enfin, ça a pas l'air de. Au niveau du ministère de la Culture, on ne donne aucune date, quoi. Au SNAM CGT, on a une position, et la CGT Spectacle aussi. On demande la réouverture des salles, mais on demande aussi des fonds d'aide, des fonds qui pourraient se conjuguer en fonds de répétition payés par l'État. Puisqu'on nous interdit de travailler, on leur demande de financer du travail malgré tout, puisqu'on peut quand même répéter dans des salles qui sont fermées, elles pourraient rouvrir au moins pour répéter. C'est dans ce sens-là qu'on a écrit une lettre au maire avec le collectif intermittent et précaire d'Orléans, le CIP 45. On demande la réouverture des salles, mais on a conscience que quand les salles vont réouvrir, ça ne va pas résoudre tout le problème. En fait, quand les salles vont réouvrir, déjà il y en a qui vont fermer, il y a des festivals qui ferment, qui s'annulent. Et quand les salles vont réouvrir, bah, il va falloir réenclencher une programmation, réenclencher du démarchage pour trouver des dates. Donc c'est au moins des fois 6 mois ou 1 an de décalage. Les salles qui vont réouvrir vont aussi programmer les spectacles qui ont été annulés. Donc la programmation va déjà être pleine. Donc on est parti sur quelques années de galère, quoi. Il va falloir un plan de relance sur quelques années. Là, juste rouvrir les salles, ça ne va pas solutionner le problème, quoi.
Pour trouver des solutions, le collectif des intermittents et précaires du Loiret, dont fait partie Vincent Lemaire, a rencontré William Chancerel mi-février. Il est adjoint à la culture à la mairie d'Orléans.
Oui, est-ce que vous m'entendez bien ?
Parfait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les mesures mises en place par la mairie d'Orléans pour soutenir la culture et ses artistes durant cette période difficile ?
En effet, depuis plusieurs mois, le monde de la culture et de l'événementiel est particulièrement frappé par la pandémie et puis les dispositions qui nous ont contraints à fermer les établissements et lieux de culture. Donc la mairie a mis en place notamment un fonds de soutien aux acteurs culturels, un fonds de soutien de 250 000 euros. 200 000 euros qui sont versés sous forme de subventions pour des projets allant de 3 000 à 20 000 euros, en tout cas pour ce qui est de l'aide de la mairie jusqu'à 20 000 euros. Et puis un volet de 50 000 euros qui est plus dédié à l'appel à projet, de l'appel à création sur l'espace public notamment.
Quel retour avez-vous de ces acteurs face à cette situation ? Vous les rencontrez souvent ?
Alors j'essaye effectivement de les rencontrer le plus possible, en vérité quotidiennement. J'essaye de réunir aussi, voilà, que ce soit des directeurs d'établissement ou des indépendants qui ont évidemment des problématiques très différentes. Ce matin, j'ai rencontré un collectif d'intermittents et de précaires du monde de la culture qui nous ont fait part de leurs difficultés. Évidemment, j'en étais conscient, mais c'est extrêmement important de rencontrer les gens et de connaître les situations individuelles. Donc ce fonds de soutien, comme ils nous l'ont dit, a été très apprécié. Ils nous ont remercié pour cette action. Mais nous ont fait part aussi du fait que les indépendants, notamment les musiciens, sont très particulièrement et étaient un peu les grands oubliés des dispositifs. Donc ils ont deux craintes, qui est d'une part que l'année blanche de l'intermittence du spectacle annoncée par le président l'année dernière s'arrête en août et qu'ils se retrouvent sans dispositif d'intermittence, et puis d'autre part qu'ils ne puissent pas bénéficier des fonds de soutien mis en place. Donc on réfléchit avec eux à des actions concrètes à mettre en place rapidement pour les aider.
Vous prévoyez quoi donc pour ces intermittents, pour faire suite à leurs demandes ?
Alors c'est un peu tôt pour vous répondre précisément, puisqu'ils nous ont fait part de leurs demandes par courrier, donc je les ai reçus ce matin pour essayer de voir avec eux quel dispositif pourrait être mis en place. Donc on essaiera de s'orienter vers des solutions de soutien à une forme de résidence dans les établissements culturels de la ville et peut-être d'autres villes de la métropole. Mais on doit se revoir très rapidement pour détailler un petit peu ces mesures qui aujourd'hui sont encore à l'état de projet.
Oui, il était notamment question de financer les répétitions et les représentations. Est-ce que c'est envisageable pour Orléans de financer ça ?
Alors, il y a deux choses. D'une part, effectivement, l'ouverture des lieux et le fait de pouvoir permettre aux artistes et aux techniciens de travailler, c'est déjà le cas, en fait, hein, depuis le premier confinement. On a laissé, notamment, Théâtre d'Orléans ou à l'Astrolabe des plateaux ouverts pour que les artistes puissent répéter, enregistrer et faire des captations. Après, le fait de payer des résidences comme ça, c'est quelque chose qu'on est en train de doucement mettre en place. L'Astrolabe notamment va le permettre là, au courant mars. C'est des solutions effectivement qui paraissent intéressantes, mais à creuser sur le plan financier. L'idée, c'est que la ville prendra sa... toute la part qu'il faudra qu'elle prenne, mais on peut pas être les seuls acteurs à soutenir les professionnels de la culture, donc il faut qu'on se mette aussi bien en phase et en articulation avec d'autres partenaires comme le département, la région, l'État, puis les autres villes de la métropole. Donc voilà, il y a tout un mécanisme à mettre en place pour qu'on soit le plus efficace possible et qu'on marche tous dans le même sens.
Lors d'une manifestation, plusieurs artistes se sont plaints du fait que l'argent était alloué notamment à des grosses structures et que cet argent ne ruisselait pas jusqu'à eux. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous avez des retours similaires ?
J'entends cette revendication. Elle est souvent le fait d'indépendants. C'était le cas du dialogue très intéressant qu'on avait ce matin avec le collectif d'indépendants. Je pense qu'il faut pas exclure une solution par rapport à une autre. C'est indispensable d'alimenter les grosses structures parce que je ne sais pas si on peut parler de ruissellement. J'aime pas trop ce terme. Mais ce qui est certain, c'est que on pourra jamais se mettre à la place et faire le boulot du théâtre, de l'Astrolabe et ce genre d'établissement, puisque ce sont eux qui accueillent les artistes et qui leur permettent de travailler. Mais effectivement, on peut pas se contenter peut-être d'être que dans la solution financement des gros établissements. Donc c'était aussi le principe du fonds de soutien qu'on a mis en place, c'est-à-dire que ce fonds de soutien est ouvert à tous, grands établissements comme petits porteurs de projets entre guillemets.
Mais les sommes allouées ne sont pas les mêmes, c'est 200 000 euros pour les grosses structures et 50 000 pour les indépendants.
Non, pas du tout. En fait, les 200 000 euros sont pas pour les grosses structures, ils sont pour tout porteur de projet qui est en capacité de recevoir une subvention, si vous voulez. C'est le problème, il est pas tant de savoir si c'est gros ou petit, c'est juste le problème de savoir si vous êtes indépendant ou en association ou en structure, si vous voulez. Une compagnie de théâtre pourra tout à fait bénéficier du fonds de soutien, même si elle mène un projet qui est de petite ampleur. L'Astrolabe pourra aussi bénéficier de ce fonds de soutien selon les projets. La question est plus de savoir effectivement que fait-on des indépendants. Donc on avait trouvé cette solution de l'appel à projet de ces fameux 50 000 euros, mais on a conscience qu'effectivement c'est une réponse qui est encore partielle, en tout cas qui ne peut pas répondre à toutes les problématiques. Donc c'est pour ça qu'on va continuer à travailler avec les indépendants pour voir quelles solutions pourront être mises en place de manière complémentaire.
En attendant d'autres réponses politiques, voire la réouverture des lieux, certaines structures tentent de s'adapter. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cette émission. Nous irons à la rencontre d'une compagnie de théâtre de rue. On passera également par l'Astrolabe. Et pour finir, un atelier d'artistes indépendants qui ont fait le choix de ne toucher aucune aide.